Nous sommes entrés dans un état de crise écologique durable et planétaire. Hervé Kampf, extrait de Comment les riches détruisent la planète. Le mode de production capitaliste et le modèle de société qui en découle est la cause directe de la crise écologique majeure à laquelle nous sommes confrontés depuis 3 ou 4 générations. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous nous heurtons aux limites de la biosphère et nous subissons les conséquences de plus en plus directes du saccage systématique des sols, de l'air, de l'eau et de toutes les espèces vivantes. Le milieu naturel a atteint le maximum de corruption compatible avec la survie des humains et, développement durable oblige, nous allons droit dans le mur. L'homme a perdu l'aptitude à prévoir et à prévenir, il finira par détruire la Terre, Albert Schweitzer. Nous en sommes donc arrivés à un niveau de pollution globale et sans retour en arrière possible, caractérisé par des changements climatiques irréversibles dus au réchauffement de l'atmosphère lié à l'activité humaine, à une érosion de la biodiversité telle que l'on peut parler de sixième crise d'extinction pour désigner la disparition accélérée d'espèces à notre époque. La cinquième crise d'extinction, il y a 65 millions d'années, avait vu la disparition des dinosaures. Enfin, nous sommes arrivés à un stade de contamination chimique généralisée de notre environnement, et ce en moins de 60 ans. Du Xanax dans les rivières, jusqu'aux cadavres qui se décomposent moins vite à cause des conservateurs que l'on ingurgite tout au long de nos vies de consommateurs via l'alimentation moderne. Déjà 50 ans que tout ça, nous le savons, et qu'en dehors des théories fumeuses servant la bonne conscience politique et le marketing, à coup de développement durable et de culpabilisation individuelle, rien ne se passe et tout s'accélère. Voici l'abécédaire de la DER des DER.
C'est la Première Guerre mondiale, en fait. C'est l'éradication de la paysannerie franco-germanique qui se fait massacrer au front. Tu vois, des millions de paysans sont morts.
Dominique Guillet, fondateur de Cocopelli, association qui produit et distribue des semences potagères bio de variétés anciennes.
Et donc, cette entreprise de dépaysannerie, on va dire, a été parachevée par la Seconde Guerre mondiale. Et puis vient se greffer par-dessus tout cela la synthèse de l'ammoniac, qui permet de faire des bombes et qui, après, permet de faire des fertilisants de synthèse. Et ensuite, l'invention des gaz moutardes, durant la Première Guerre mondiale, qui va donner quoi ? Eh bien, qui va donner tous les insecticides, qui sont des gaz de combat.
I comme insecticide.
Et avec le plan Marshall, en 1947, les États-Unis arrivent avec les tracteurs, qui sont la suite logique des tanks. Donc, en fait, l'agriculture occidentale, c'est une agriculture de guerre.
Donc voilà le cadre. C'était pendant une formation à la prise de son. On était un petit groupe à s'être levé avant l'aube. Puis on est parti avec nos micros et nos casques à l'orée d'un bois. Alors le bois était entouré de champs labourés et puis c'était dans le Lauragais. On était tout impatients là de pouvoir enregistrer le réveil de la nature. On met les casques, on allume nos micros. Et là, rien. Il n'y avait pas un bruit à part nos pas. Rien du tout. Et malgré nos micros qui captent à plus de 20 mètres à la ronde... Que dalle. Et bah... Ah, quoique là, je viens d'entendre au loin. Ah oui, ah bah c'est, ah ouais. Deux corneilles. Et puis une mouche. Alors ça, autant vous dire que c'est une expérience complètement flippante. Et ça m'a fait penser à ce livre, Le printemps silencieux, qui a été écrit par la biologiste Rachel L. Carson, qui est paru en 1962 aux États-Unis. C'est un livre qui a prouvé que l'usage intensif des insecticides et des pesticides entraînait la mort de nombreux oiseaux.
il est en rêve.
Inutile hécatombe. L'histoire des siècles derniers est marquée de pierres noires. Le massacre des buffles dans les plaines de l'Ouest américain, l'extermination des aigrettes au plumage attirant, etc., etc. À cette tuerie, l'époque actuelle ajoute un chapitre, une hécatombe d'espèces nouvelles. L'empoisonnement des oiseaux, des mammifères, des poissons, de toutes les formes de la vie animale, au moyen d'insecticides chimiques aveuglément répandus. Au cours des 10 dernières années, marquées par des programmes de pulvérisation insecticide intéressant des milliers, voire des millions d'hectares d'un seul tenant, période pendant laquelle individus et collectivités ont répandu de plus en plus de produits chimiques, le tribut payé par la vie animale et végétale des campagnes américaines a atteint des chiffres alarmants. Examinons-en quelques exemples. À l'automne 1959, 11 000 hectares du Michigan, couvrant en particulier des faubourgs de Détroit, ont été traités par avion à l'aide d'aldrine en paillettes, l'un des plus dangereux des hydrocarbures chlorurés. L'opération dirigée contre le scarabée du Japon, ou Popillia japonica, a été menée par le service local de l'agriculture en coopération avec les autorités fédérales. Cette offensive brutale et dangereuse était peu justifiée. Walter P. Nickel, l'un des naturalistes les plus connus du Michigan et l'un des mieux informés puisqu'il vit à la campagne et en particulier dans le sud durant l'été, a écrit en 1959 « Depuis plus de 30 ans, à ma connaissance, il existe quelques scarabées du Japon à Détroit. Leur nombre n'a pas sensiblement augmenté. Je n'en ai pas encore vu un seul, en 1959 donc, sinon les quelques spécimens capturés à Détroit par les services officiels. Tout est si bien tenu secret que je n'ai pu apprendre encore nulle part si leur nombre avait augmenté. » Bref, un communiqué officiel a déclaré que le scarabée avait fait son apparition dans les zones désignées pour l'offensive aérienne et l'opération a été lancée. Le Michigan a fourni la main-d'œuvre et assuré la direction, les autorités fédérales ont donné le matériel et les communes ont payé l'insecticide. Le scarabée du Japon, coléoptère commun dans les grandes îles d'Extrême-Orient, est un insecte brillant d'un vert métallique qui a dû pénétrer aux États-Unis en 1912 sur des plantes. On l'a remarqué pour la première fois en 1916 dans une pépinière voisine du Riverton dans le New Jersey. De Riverton, le scarabée s'est assez largement répandu à l'est du Mississippi, en divers états où le régime des pluies et de la température lui convient. À l'aise. Chaque année, l'insecte gagne un peu de terrain. Dans les zones est, où il est installé depuis le plus longtemps, les méthodes naturelles employées pour restreindre sa prolifération ont été couronnées de succès. En dépit de cela, les États situés plus à l'ouest, à la limite de la progression du scarabée, ont lancé en 1959 contre cet insecte bien modérément nuisible l'attaque qu'aurait justifié l'ennemi le plus virulent. Ils ont employé les ingrédients chimiques les plus nocifs et les ont répandus par avion, exposant aux dangers d'intoxication les gens et les animaux, domestiques ou non. Des pertes affligeantes ont été signalées, mais on a continué, et aujourd'hui encore dans des secteurs importants du Michigan, du Kentucky, de l'Iowa, de l'Indiana, de l'Illinois ou du Missouri, sont inondés de poisons au nom de la lutte contre le scarabée. Le choix de l'aldrine pour cette opération du Michigan a été dicté par une raison d'ordre économique et non technique. Mais c'est le moins cher. Le communiqué officiel remis à la presse a bien qualifié l'aldrine de poison, mais a laissé penser que les populations ne risquaient rien. À la question « Quelles précautions dois-je prendre » disait-on, pour vous, aucune. Les journaux ont publié plus tard une remarque d'un fonctionnaire du Bureau fédéral de l'aviation disant « C'est une opération sans danger ». Et un autre officiel de Détroit a déclaré « La poudre est inoffensive pour l'homme et ne fera de mal ni aux plantes ni aux petits animaux familiers ». Il faut en conclure que ces deux fonctionnaires avaient oublié de consulter les documents où sont exposées les preuves de la nature extrêmement toxique de l'aldrine, les rapports officiels du service de la santé publique des États-Unis entre autres. Les avions ont commencé à survoler à basse altitude la région de Détroit sans plus de manière, puisque les lois de l'État du Michigan autorisent les autorités locales à procéder aux pulvérisations de pesticides sans notification et sans rechercher l'accord préalable des propriétaires terriens. Les responsables ont été aussitôt assaillis par les protestations inquiètes des habitants. Après avoir reçu près de 800 appels en une heure, la police a demandé à la radio, à la télévision et à la presse de dire aux spectateurs ce qu'ils voyaient et les informer que c'était sans danger. Le chef du service de sécurité du Bureau fédéral de l'aviation a déclaré au public que les avions étaient soigneusement visités et avaient l'autorisation de voler à basse altitude. Puis il a ajouté maladroitement, dans l'intention de calmer les craintes, que ces avions possédaient des soupapes vite-vite, leur permettant de larguer toute leur cargaison d'un coup en cas de danger. Ils n'ont pas eu à s'en servir, par bonheur, mais dès qu'ils se sont mis au travail, les paillettes de poison inoffensifs sont tombées indistinctement sur les scarabées, les hommes, les femmes et les enfants. Les ménagères ont ensuite balayé ces paillettes sous leurs porches et sur les trottoirs, où on aurait dit de la neige. De petites particules d'aldrine et d'argile, grosses comme des têtes d'épingle, s'étaient logées par millions entre les bardeaux sur les toits, dans les chéneaux, les fentes des écorces, a rapporté plus tard la société Audubon du Michigan. Lorsque vinrent neige et pluie, la moindre flaque d'eau se transforma en tisane mortelle. Quelques jours après le traitement, la société Audubon a commencé à recevoir des plaintes concernant les oiseaux. Madame Anne Boyce, secrétaire de la société, a écrit ceci. La première indication de l'inquiétude des gens fut un coup de téléphone le dimanche matin d'une femme qui, en rentrant de l'église, avait remarqué un nombre alarmant d'oiseaux morts ou mourants. Le traitement avait été effectué là le jeudi. Elle déclara que plus aucun oiseau ne volait dans le quartier, qu'elle en avait ramassé une douzaine de morts dans sa cour et que les voisins avaient trouvé des cadavres d'écureuils. Tous les autres coups de téléphone de la journée ont donné le même son de cloche. De nombreux oiseaux morts et aucun de vivant. Des gens qui avaient continué à entretenir des mangeoires pour oiseaux dirent que pas un volatile n'y était venu. Les oiseaux mourants présentaient les symptômes typiques de l'empoisonnement par insecticide. Tremblements, inaptitude au vol, paralysie, convulsions. La vie des oiseaux n'était pas seule en cause. Un vétérinaire fit savoir que sa salle d'attente était bondée de clients apportant leurs chiens et leurs chats. Les chats qui lèchent si méticuleusement leur fourrure étaient particulièrement affectés. Forte diarrhée, vomissements et convulsions. Le vétérinaire ne pouvait que recommander aux gens d'enfermer leurs animaux ou de leur laver rapidement les pattes s'ils sortaient. Ce dernier conseil d'ailleurs n'avait pas grande valeur car le lavage n'enlève pas les hydrocarbures chlorurés, même sur un fruit ou un légume. Le service de santé local a reçu 1000 réclamations de gens qui souffraient de maux de gorge et d'irritations pulmonaires dues à l'aldrine. Mais le fonctionnaire du CRU a maintenu que ces petits troubles venaient d'autre chose et que les oiseaux avaient été tués par quelque autre espèce d'insecticide. Un éminent médecin des hôpitaux de Détroit a été appelé auprès de 4 personnes dans l'heure qui a suivi la pulvérisation. Ces 4 malades avaient regardé travailler les avions et présentaient les mêmes symptômes. Nausées, vomissements, frissons, fièvre, extrême fatigue et toux. L'expérience de Détroit a été reprise avec les mêmes résultats en de nombreuses autres localités. À Blue Island, dans l'Illinois, 80% des oiseaux chanteurs ont été sacrifiés. À Joliet, dans le même état, 1200 hectares ont été traités à l'heptachlore en 1959. Selon la société de chasse et de pêche locale, la population ailée du pays a été virtuellement anéantie. Lapins, rats musqués, opossums et poissons ont également souffert. Aucune communauté cependant n'a dû pâtir autant de cette haine des insectes que Sheldon dans l'Illinois et les localités voisines. En 1954, les autorités locales et fédérales ont décidé de détruire le scarabée sur le front de sa progression dans l'Illinois, espérant et même persuadés qu'une pulvérisation massive viendrait à bout de l'envahisseur. La première extermination a eu lieu la même année. 560 hectares ont été traités à la dieldrine par avion. 1040 hectares ont dû recevoir les mêmes attentions l'année suivante, et sans plus de succès, puisque de fil en aiguille, à la fin de 1961, on en était à traiter le 52 400e hectare. Dès les premières années, les animaux sauvages et domestiques ont subi de lourdes pertes, mais le traitement chimique a été poursuivi. Tout a concouru à l'empoisonnement des oiseaux consommateurs d'insectes, le choix du toxique et les conditions de son emploi. On a répandu plus de 3 kg de dieldrine à l'hectare, ce qui équivaut à une dose de 150 kg de DDT, sans parler des endroits où les tapis de poison se sont recoupés. Les toxiques ont pénétré dans la terre et les larves de scarabées empoisonnées sont montées à la surface du sol, où elles sont restées plusieurs jours à tenter l'appétit des oiseaux avant de crever. Les rouges-gorges ont été presque exterminées, selon l'expression d'un biologiste. Des vers de terre morts ont été vus en grand nombre après une petite pluie. Probablement, les rouges-gorges ont-ils mangé ces cadavres empoisonnés. La pluie, si bonne pour les oiseaux, s'est transformée en agent de mort, elle aussi, en dissolvant le poison. Les volatiles qui se sont baignés ou qui ont bu dans les flaques après la pulvérisation ont péri. Les survivants ont été probablement frappés de stérilité, car on a vu ensuite peu de nids, moins d'œufs encore et aucun oisillon. Le rat musqué et les lapins ont subi le même sort. Les écureuils de la Caroline, très communs dans la ville avant la catastrophe, ont disparu. Heureux ont été les fermiers de la région de Sheldon qui n'ont pas perdu leurs chats dans la guerre contre les scarabées. 90% des chats de ferme, en effet, ont été victimes de la dieldrine dès la première campagne. Les expériences précédentes permettaient de le prévoir, car le chat est très sensible aux insecticides. Le tableau désolant des pertes subies par les animaux et les végétaux n'avait guère changé depuis 1955. Entre-temps, la dieldrine avait été remplacée par l'aldrine, plus toxique encore, de 100 à 300 fois plus nocif que le DDT, d'après les essais pratiqués sur les cailles. En 1960, toutes les espèces de mammifères avaient subi des pertes. La situation était plus mauvaise encore pour les oiseaux. Dans la petite ville de Donovan, rouge-gorge, ménates et tourneaux avaient disparu. Partout ailleurs, leur nombre avait fondu, comme celui de bien d'autres volatiles. Malgré ces immenses hécatombes perpétrées au titre de la lutte contre le scarabée du Japon, le traitement de 40 000 hectares en 8 ans n'a pas détruit définitivement l'insecte qui poursuit sa progression vers l'ouest. Les États de l'Est des États-Unis qui ont eu la bonne fortune de subir l'invasion des scarabées du Japon avant l'invention des insecticides de synthèse ont enrayé la multiplication des insectes par des moyens qui ne mettaient aucune autre vie en danger. Ils ont fait appel au jeu des forces employées par la nature pour maintenir l'équilibre entre les espèces, méthode efficace qui produit dans la sécurité générale un effet permanent. Entre 1920 et 1933, de diligentes recherches effectuées en Orient avaient permis de découvrir 34 espèces d'insectes prédateurs ou parasites du scarabée. Tout avait été importé, 5 s'étaient bien acclimatés dans l'est des États-Unis. La plus efficace et répandue était celle de la Typhia vernalis, ou typhie, une guêpe parasite de Corée et de Chine. Lorsque la typhie femelle trouve dans le sol une larve de scarabée du Japon, elle lui injecte un liquide paralysant, puis lui fixe un de ses œufs. La jeune guêpe, qui commence sa vie à l'état larvaire, se nourrit sur la larve du scarabée et la détruit. En 25 ans environ, les efforts conjugués des autorités fédérales et locales avaient permis l'acclimatation de colonies de typhies dans 14 états de l'Est. Ces guêpes s'étaient installées solidement dans ces contrées et, au dire des entomologistes, avaient joué un rôle important dans la lutte contre le scarabée. Ces insecticides ne sont pas des poisons sélectifs. Ils n'identifient pas l'espèce particulière que nous voulons supprimer. On les utilise uniquement à cause de leur virulence. Ils détruisent toutes les vies qu'ils rencontrent. Le chat dans la maison, le bétail dans la ferme, le lapin dans le champ, l'alouette dans le ciel. Nous leur infligeons une mort non seulement soudaine, mais horrible. Témoin cette description d'une alouette empoisonnée, écrite à Sheldon par des observateurs scientifiques. Bien qu'elle manquât de coordination musculaire et ne pouvait donc voler ni se tenir sur ses pattes, elle continuait à battre des ailes et à ouvrir et à fermer ses griffes, couchées sur le côté. Elle gardait son bec ouvert et respirait avec difficulté. Plus pitoyable encore étaient les muets témoignages des écureuils. Dans la mort, leur attitude était frappante. Leur dos était courbé, leurs pattes de devant repliées sur leur thorax, leurs petits poings fermement serrés. La tête et le cou étaient détendus, la bouche souvent pleine de terre, comme si en mourant, l'animal avait mordu le sol. Le DDT est le premier insecticide moderne développé au début de la Seconde Guerre mondiale. Il fut utilisé avec beaucoup de succès, aussi bien militairement que civilement, dans la lutte contre les moustiques transmettant le paludisme, le typhus, ainsi que d'autres insectes vecteurs de maladies, et également comme insecticide agricole. En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson publia le livre « Printemps silencieux » « Silent Spring » accusant le DDT d'être cancérigène et d'empêcher la reproduction des oiseaux en amincissant la coquille de leurs œufs. Ce livre créa un véritable tollé qui mena dans les années 70 à l'interdiction de l'utilisation du DDT dans de nombreux pays et au début de mouvements écologiques majeurs. avez entendu un extrait du film « Solutions locales pour un désordre global » de Colline Serrault et également la lecture d'un extrait du livre de Rachel L. Carson « Le printemps silencieux ». Pour aller plus loin, vous pouvez également vous référer au film « Notre poison quotidien » de Marie-Monique Robin. Les musiques utilisées pour le montage sont de Vialka, Radical Satan, One Cigan Riot, Eric Truffaz et Cercueil.
Thank you.
avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.